Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe, à nouveau au Parlement européen, profondément renouvelé au lendemain des élections de mai dernier. Une inattendue nouvelle présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen. Et en ce moment, l'audition non-stop par les eurodéputés des 26 commissaires désignés par leurs gouvernements respectifs. Les nouveaux visages de l'Europe prennent place sur le devant de la scène, plutôt laborieusement. Nous allons le voir au cours de cette émission, alors que l'Europe affiche plus que jamais sa principale priorité, réussir le tournant écologique pour ralentir le réchauffement climatique. Carrefour de l'Europe a posé ses micros au Parlement européen de Bruxelles et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Karima Deli.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission transport du Parlement européen. Autant dire que vous êtes centrale dans ce dispositif européen.
Totalement. Indispensable.
Indispensable. Clotilde Armand, bonjour. Vous êtes eurodéputée roumaine, Renew, je serais tenté de vous dire Bună Ziua.
Exactement. Bravo. Bravo pour votre roumain.
Alors vous êtes l'illustration de ce renouvellement du Parlement européen, vous êtes une toute jeune eurodéputée.
Je viens du privé, j'arrive ici à Bruxelles depuis la Roumanie et nous sommes un nouveau parti, un parti citoyen et nous sommes heureux d'être ici pour être un nouveau visage de la Roumanie,
vous êtes
le vrai visage de la
vous
Roumanie.
Vous êtes l'illustration de ce Parlement européen où vous êtes franco-roumaine mais vous représentez ici la Roumanie comme par exemple Sandro Gozzi sera probablement tôt ou tard député français tout en étant italien. Éric Maurice, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Fondation européenne par définition.
Comme son nom l'indique.
Et Jean-Sébastien Lefebvre,
bonjour. Bonjour.
Journaliste et responsable du bureau de Bruxelles de Contexte.com. Contexte.com en un mot ou deux ?
Un média spécialisé sur les affaires publiques et en particulier sur les questions européennes avec un bureau de 6 journalistes à Bruxelles.
Et puis un grand nombre de journalistes aussi à Paris.
À Paris, tout à fait.
Alors avant de parler de la Commission européenne, un mot sur le Parlement européen issu des élections de mai. Déjà, il faut le rappeler, il y a toujours des députés britanniques, hein, car le Brexit n'a toujours pas eu lieu à l'heure où nous parlons. Ils sont au nombre de 748, les eurodéputés, et le renouvellement est profond. 61% de nouveaux venus, dont vous êtes une illustration. Clairement, 41% de femmes, le Parlement européen n'a jamais été si renouvelé et si féminin, Jean-Sébastien Lefebvre.
Ça, c'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs élections, c'est-à-dire que la proportion de femmes progresse à chaque fois. Et le phénomène de renouvellement, c'est aussi que dans beaucoup de pays, il y a des changements politiques, c'est-à-dire que des partis émergent, des nouveaux partis émergent, d'autres sont en régression, des vieux partis comme, je ne sais pas, par exemple, le parti socialiste allemand, le SPD, a beaucoup moins d'élus qu'avant, beaucoup plus d'élus par contre de l'AFD, l'extrême droite, donc il n'en avait quasiment pas. Donc ce changement s'explique par les changements politiques au niveau national.
Et aussi un profond rajeunissement.
Oui. Donc là, c'est peut-être la suite de la vague de dégagisme qu'on a connue en France, qu'on a connue dans d'autres pays. Et voilà.
Éric Maurice, les vieux classiques du Parlement européen qui avaient fait 3, 4, 5 mandats, il y en a moins.
Il y en a moins, oui, comme le dit Jean-Sébastien Lefebvre, on est dans un renouvellement générationnel et qui est dans la diversité, plus de femmes, peut-être un peu plus de variété aussi du profil, ouverture sur la société civile aussi de la part des eurodéputés et qui peut se ressentir dans la manière de travailler et peut-être dans la manière de décider aussi au cours de cette législature.
Karima Deli, est-ce que vous ressentez comme une nouvelle énergie, vous qui êtes toujours jeune eurodéputé, mais quand même, c'est malgré tout votre troisième mandat.
Je fais partie bientôt des meubles.
Est-ce que vous ressentez comme, je veux dire, une nouvelle énergie dans les couloirs de ce Parlement?
Il y a un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle et ça vient surtout par les citoyens. Parce que la participation à ces élections a été beaucoup plus importante que les années précédentes. Donc ça, c'est un élément très important. Nous vous souffle également parce qu'il y a une jeunesse qui est arrivée, et je peux vous le dire, nous on a chez les écolos, la plus jeune, elle a 21 ans, vous voyez, et une volonté réelle de tout envoyer un peu valser sur ces majorités de partis politiques. Nous étions la 6e force, aujourd'hui les écologistes sont la 4e force, avec un exploit quand même, c'est que notre groupe a été... entre guillemets, a augmenté de 50% ses membres. Donc maintenant, on est la 4e force. Moi, je crois que le Parlement a montré aussi que les vieux systèmes politiques un peu s'effondrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti des conservateurs et le parti socialiste, qui était plutôt « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » et on fait l'appui et le beau temps au Parlement, c'est terminé. Ils sont obligés aujourd'hui de composer avec les quatre grandes forces.
Jean-Sébastien Lefebvre, alors, Karima Deli a levé un petit peu, c'est du teasing qu'elle vient de nous faire là. C'est vrai que pendant des années, pour ne pas dire des décennies, la vie du Parlement européen, elle était, on savait... globalement, ce qui allait se passer d'une législature à l'autre, il y avait un groupe de droite, le Parti Populaire Européen, très fort, qui était traditionnellement le groupe le plus important, et qui l'est toujours d'ailleurs, et puis face à eux, les sociaux-démocrates, mais ni l'un ni l'autre n'avait la majorité, et pour qu'il y ait une majorité, c'était en gros 50-50, on s'arrangeait entre amis, si je puis m'exprimer ainsi.
C'était un peu ça, le Parlement Européen était en quelque sorte co-géré sous forme d'une grande coalition par les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et là, pour la première fois, effectivement, depuis les dernières élections, ils n'ont plus la majorité à eux deux. C'est-à-dire que pour faire passer un texte, même pour faire voter une élection d'un président de commission parlementaire ou n'importe quel poste, ils ont besoin d'alliés. Alors, déjà avant, souvent, ils allaient chercher quelques réserves de voix chez les centristes, ce qu'on appelait les libéraux et démocrates, maintenant c'est Renew. Mais maintenant, c'est indispensable. Et en plus, pour vraiment être sûr, il faut même qu'ils aillent chercher un quatrième groupe avec eux, donc les Verts, parce que c'est les plus pro-européens de ceux qui restent, pour être sûr qu'une mesure, qu'un texte, qu'une élection passe. Donc la structure est complètement différente. Le Parti Populaire et les sociaux-démocrates sont dans une situation où ils doivent apprendre maintenant un petit peu à plus partager leurs jouets, parce que ils ne sont plus dominants, ils ne sont plus majoritaires.
Et on va se rendre compte dans un épisode qui est en train de connaître le Parlement européen en ce moment, c'est-à-dire la désignation des commissaires. On va voir que ça a de l'influence sur la désignation des commissaires. Mais on va voir ça tout à l'heure. Clotilde Armand, Renew, Karima Deli, Europe Écologie, Les Verts, est-ce que vous êtes les nouveaux faiseurs de roi ou de l'une et l'autre, Clotilde Armand?
Je peux d'abord parler de ce qui vient de se passer dans la commission budget. C'est une illustration de ce que vous venez de dire. Les PPE, les conservateurs et les socialistes ont cru que les choses marchaient comme jusqu'à maintenant, et pas du tout. On a complètement bouleversé les cartes. On a dit, non, on ne veut pas de votre budget qui n'est plus pas à l'écoute des citoyens. On a refait une coalition entre les Verts, les socialistes et Renew pour forcer les conservateurs à changer totalement leur positionnement. Et on a montré que les choses avaient changé. Maintenant, il faut des majorités beaucoup plus vastes. On ne veut plus des budgets qui sont faits il y a 10 ans et qui vont se refléter. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant. On a bouleversé le mastodonte.
Éric Maurice, est-ce qu'on peut dire que ce Parlement est en train de devenir plus démocratique ?
Ah, tout à fait, parce que on sort de cette fameuse co-gestion entre les deux grands partis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des dynamiques aussi à l'intérieur des groupes. Quand on regarde les Verts ou Renew, c'est quand même des sensibilités différentes entre les Verts allemands ou les Verts français et belges, par exemple, entre les libéraux, les centristes ou les macronistes qui sont ni droite ni gauche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un équilibrage ou un rééquilibrage entre nationalités. Au sein du PPE, il y a quand même une montée en force de l'Europe centrale et orientale. Au sein des socialistes...
Alors qu'avant, c'était un groupe dominé par les Allemands.
Voilà, ou par aussi l'Europe des Six. On voit que les Français sont beaucoup moins nombreux dans le PPE ou SED. Les Allemands moins nombreux aussi au SED, donc le groupe social-démocrate. Donc il y a, au-delà de ce renouvellement générationnel d'équilibre homme-femme, il y a aussi ces différentes sensibilités politiques et culturelles et qui rendent finalement le Parlement plus démocratique parce qu'il représente beaucoup plus les différentes sensibilités des électeurs et des citoyens. Mais ça rend la gouvernance et les débats beaucoup plus imprévisible, et on voit ça notamment dans les auditions des commissaires où peut-être les donnants-donnants qui pouvaient exister entre les deux grands groupes lors des commissions précédentes ne sont plus aussi évidents qu'avant.
Pour Europe Écologie Les Verts, vous allez pouvoir davantage peser sur ce Parlement et donc sur la vie européenne.
En tout cas,
vous allez essayer, vous espérez.
Alors, nous, on est un groupe qui a porté le même programme, alors que vous soyez allemand, néerlandais, c'est le même programme. C'est la famille écolo qui porte un objectif, c'est de mettre à l'agenda politique l'urgence climatique. Et là, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines thématiques où les Verts vont plus peser parce que le Parlement, pour la première fois, peut se faire entendre. Et la première étape, et ça s'est vu, c'était notamment avec l'élection de Madame von der Leyen, qui est passée ric-rac. Ric-rac avec des voix dont elle voulait pas forcément, notamment avec les voix des Polonais de ce groupe un peu d'extrême droite, etc. Et donc, elle est obligée de faire attention aujourd'hui à ce que les autres groupes politiques demandent. Nous, ce que nous demandons, c'est clair et net, c'est de faire en sorte que l'urgence climatique se décline dans toutes les politiques européennes. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce que les auditions, aujourd'hui, sont encore... en termes de questions climatiques, ne sont pas encore dans la priorité de ces commissaires.
Alors, Ursula von der Leyen, c'est la nouvelle présidente de la Commission européenne, voilà. Sur 748 députés, c'est une grande assemblée, elle avait juste 9 petites voix d'avance.
Huit ou neuf,
grand chose, c'est une toute petite majorité pour une grande présidente, une présidente de la Commission européenne. On verra un peu après si elle est affaiblie. Alors en ce moment, l'actualité au Parlement européen et les couloirs bruissent de rumeurs dans tous les sens, c'est les auditions des commissaires désignés qui occupent toute l'énergie des eurodéputés. C'est comme une petite effervescence en ce moment. Alors il faut dire que la présidente de la Commission Ursula von der Leyen est à la tête, j'ai simplifié un peu, d'un gouvernement de l'Europe. Oui. On est d'accord, c'est pas vraiment bon. Sauf que, à l'inverse du chef de gouvernement, elle ne choisit pas ses ministres, elle ne choisit pas ses commissaires. Jean-Sébastien Lefebvre, ils arrivent.
Alors ils sont proposés par les États membres. Chacun peut en choisir un. Mais il y a quand même une discussion. Ça veut dire qu'il arrive que la présidente, et avant le président Juncker, dise « Est-ce que vous pourriez plutôt m'envoyer quelqu'un avec ce type de profil ? Si vous voulez ce type de portefeuille, il faudrait plutôt... » Voilà, il y a quand même une discussion. Et officiellement, le président ou la présidente de la commission peut refuser quelqu'un en disant « Non, ça ne va pas. » Après, il faut avoir assez de courage politique et de capital politique pour le faire. Ursula von der Leyen n'a pas refusé officiellement de candidat. Et c'est pour ça que certains sont un petit peu faiblards quand ils arrivent devant les auditions. Parce que les gouvernements n'ont pas forcément envoyé le meilleur de ce qu'ils pouvaient trouver.
Ils ont parfois, Éric Maurice, envoyé des candidats dont ils ne savaient que faire chez eux.
C'est un peu le problème de l'Europe depuis longtemps, qu'on sentait peut-être moins, mais d'avoir à Bruxelles des gens qui ne sont peut-être plus désirés sur la scène nationale, ou au contraire, que certains gouvernements essayent d'avoir un représentant qui défendra leurs intérêts au sein du Collège des commissaires, alors que les commissaires sont censés représenter l'intérêt général. Et on a vu, par exemple, le candidat hongrois, Laszlo Trossani, qui est l'ancien ministre de la Justice de Viktor Orban, alors que le grand problème avec la Hongrie de Viktor Orban, c'est effectivement le lien à l'état de droit et les réformes de la justice. Donc là, il y avait quelque chose d'assez ambivalent et il n'a pas tenu dès la première audition.
Alors, c'est pas si facile que ça de devenir commissaire européen. C'est tout sauf un long fleuve tranquille qui veut rebondir, Katma Deli.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que nous, le Parlement européen, on fait des auditions. Mais c'est une vraie procédure démocratique.
C'est-à-dire que chaque commissaire passe devant.
Il est sur la sellette pendant 3 heures. Alors avant, on lui pose des questions écrites, mais on sait que c'est les fonctionnaires qui y répondent. Mais quand il est 3 heures devant les députés, il est sur la sellette. Donc on va juger sur 2 volets. Le premier volet, et ça a été la première étape, notamment sur ces conflits d'intérêts. On a vu que la commissaire roumaine en charge des transports, conflit avéré, donc non, n'est pas retenu. Et pareil sur notamment le commissaire hongrois. Des propos et surtout des conflits d'intérêts, donc hop, ils ne font plus partie.
Ces deux-là n'ont même pas franchi la première étape.
Donc la première étape, ça y est, ils ne l'ont pas passée, donc les gouvernements, comme vous le disiez, sont obligés de renommer des personnes. Mais la deuxième étape, c'est l'audition de la compétence. Et là, c'est très important. Parce qu'on va les fouiller sur quelle vision politique, est-ce que tel et tel dossier, sur tel et tel défi, est-ce qu'ils sont à la hauteur. Et on voit bien que, de manière assez transparente, ça n'existe jamais, moi je connais pas dans le monde une procédure aussi démocratique, aussi transparente. Moi j'aimerais bien qu'on fasse ça dans le gouvernement français, ça nous éviterait quelques scandales. Mais en tout cas, ça oblige justement de montrer à quel point nous, députés représentants aussi des citoyens, qu'est-ce que nous attendons d'un commissaire européen. Et je pense que ça, il faut absolument dire que c'est quelque chose de positif. Maintenant, la véritable question, c'est lorsqu'ils sont sur la sellette, là, tout n'est pas gagné. Parce que ce sont des jeux de pouvoir, c'est si tu fais tomber tel ou tel candidat, moi aussi dans tel groupe politique je fais tomber tel candidat. Et ensuite il y a véritablement la question de quelle vision politique. Et pour l'instant rien ne se dégage réellement.
Alors bon, on va revenir quand même un instant sur ces auditions. D'abord elles sont publiques, elles sont retransmises via internet sur le canal du Parlement européen. Donc tout le monde peut assister aux quatre coins de l'Europe. Et au-delà, et 3 heures sur le grill face à tous les députés ne sont pas là, c'est un système de commission, etc. Bref, mais enfin, il y a quand même une centaine de députés qui sont là, des questions qui sont posées, je dirais parfois brutes de décoffrage, on n'y met pas forcément, on est poli, on est courtois, mais la réalité des questions est quand même très très sévère. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Alors, par exemple, alors il y a ceux qui n'ont même pas atteint ce niveau, c'est le commissaire désigné par la Hongrie et celui désigné par la Roumanie. Mais par exemple, il y a eu deux auditions, le commissaire belge Didier Reynders, qui s'en est plutôt bien sorti, et c'était pas si évident que ça pour lui. Et puis d'autres, le commissaire désigné par la Pologne à l'agriculture. Et là, c'était, semble-t-il, une catastrophe.
Oui, tout à fait. Alors, le commissaire à l'agriculture est le candidat polonais. Et ce qui s'est passé, c'est... Alors qu'il est censé connaître un petit peu les sujets agriculture, parce qu'avant, il était député européen, et il a siégé en commission de l'agriculture. Mais pendant ces 3 heures d'audition, il a fait uniquement des réponses du type « Je suis d'accord avec vous, très bien, oui, on va faire ça, oui, je vais vous consulter, etc. » Ce qui fait qu'en fait, il disait tout et son contraire en fonction de la question qu'il avait. Donc, au bout de 3 heures, les députés européens ont dit « Bah, en fait, ça va pas, on va lui reposer des questions par écrit. » Et à mon avis, une deuxième audition n'est pas exclue pour lui, puisque comme il n'a absolument apporté aucune substance lors de son audition, il faudra qu'avant savoir un peu plus pour l'homme qui va gérer 30% du budget de l'Union européenne, quand même. La politique agricole commune, qui en plus est en cours de réforme, représente en pleine mutation, et qui représente une 45 milliards d'euros par an distribués aux agriculteurs. Et pour le cas du Belge, lui, c'est un cas qui est un petit peu similaire à Sylvie Goulard, la candidate française, c'est qu'il y avait question de enquête judiciaire pour le cas de Didier Reynders. C'était une accusation de corruption dans une affaire de marché public en Belgique, mais l'enquête a été, l'information judiciaire, c'était même pas une enquête, a été fermée par le procureur du roi juste avant. Donc il y a eu quelques questions là-dessus. Après, il y a eu beaucoup de questions sur la question de l'état de droit. Justement, c'est lui qui va surveiller un petit peu si la Pologne et la Hongrie arrêtent leurs réformes jugées illibérales. Et là-dessus, il a été très bon. Donc à la fin, les députés ont dit c'est bon, il passe. Voilà, de toute façon, l'information judiciaire est terminée. Allez go.
Alors on va consacrer la deuxième partie de l'émission à la candidate désignée française, Sylvie Goulard. Mais il y a 26 commissaires, donc 26 candidats. Éric Meurice, qui alors les auditions continuent jusqu'au mardi 8 octobre. Donc il y en a 3 par jour. Hein, c'est vraiment très intense.
6,
pardon. Pardonnez-moi. Qui s'en sort plus ou moins bien,
Didier Reynders s'en est bien sorti. Le commissaire slovène, je crois, qui sera aux actions d'urgence, de protection des citoyens, mais dans le sens face aux incendies, face aux catastrophes naturelles, s'en est bien sorti. Je crois que le commissaire au commerce, qui est le commissaire à l'agriculture sortant, l'Irlandais Phil Hogan, s'en est plutôt bien sorti aussi. Je crois que Maria Gabriel, qui s'occupera de la recherche et de la jeunesse, innovation et jeunesse, s'en est bien sorti aussi. C'est une commissaire sortante. Dans ceux qui sont plutôt mis sur le grill, il y a notamment le commissaire désigné grec, Margaritis Kinas, à la protection du mode de vie européen.
Ah oui, alors on va y venir.
Et voilà, ça c'est une question qui taraude beaucoup de monde. Il y a aussi le commissaire italien aux affaires économiques et financières. Et vu la situation en Italie, forcément, il y a beaucoup de questions.
Monsieur Gentiloni.
Gentiloni, l'ancien Premier ministre. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive, qui garde la concurrence, qui a fait sa notoriété. Et aujourd'hui, on voit
ça
que...
Ça parce qu'elle a fait payer les GAFA, les grands groupes, les grandes multinationales du numérique.
Avec la Cour de justice qui a plus ou moins remis en cause certains cas, donc aujourd'hui elle doit aussi expliquer comment elle va agir dans les 5 prochaines années sur le long terme de toutes ces décisions.
Nous allons faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète, et on se retrouve dans 3 minutes à Bruxelles pour la deuxième partie de Carrefour de l'Europe. A tout de suite.
Europejskie.
Cruzimy tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Bruxelles, au Parlement européen, où les auditions par les eurodéputés et les commissaires désignés par leurs gouvernements respectifs se succèdent à un très grand rythme. Et la mise en place de cette nouvelle commission européenne est loin d'être une partie de plaisir, comme on l'a déjà un peu compris, en tout cas pour la nouvelle présidente de la commission, Ursula von der Leyen, puisque déjà deux candidats, le hongrois et le polonais, ont été retoqués, et que la française Sylvie Goulard est en difficulté. Nous allons voir ça dans cette partie de l'émission. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints ici à Bruxelles. Karim Adeli, elle est eurodéputée Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission transport du Parlement européen. Clotilde Darmon est une toute jeune eurodéputée roumaine du groupe Renew. Éric Maurice est le responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Et Jean-Sébastien Lefebvre est journaliste responsable du bureau de Bruxelles de contexte.com, le site que tous les gens qui s'intéressent à l'Europe consultent régulièrement. Alors avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit tour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Benjamin Morant.
Bonjour Daniel.
L'intitulé du commissariat chargé des questions migratoires, qui aura aussi dans son portefeuille, la protection du mode de vie européen, a fait frissonner le landerneau européen, car cette formulation protection du mode de vie européen a été jugée ambiguë par certains. Mais pour Il Messaggero de Rome, il faut protéger notre mode de vie européen.
Oui, en effet, face à ce choix, la levée de bouclier a été immédiate de la part de la presse européenne, on a vu. Mais à bien chercher, on trouve également des journaux qui défendent la décision d'Ursula. C'est le cas du quotidien italien Il Messaggero, par exemple, qui, on pourrait dire, en utilisant un mauvais jeu de mots, s'indigne de l'indignation provoquée par le choix de von der Leyen. Alors l'édito de ce journal s'exprime sur un ton assez ironique, mais aussi virulent, car il débute en fustigeant les apôtres du politiquement correct. Alors, qui sont-ils? On parle du Parti Socialiste Européen, de La République En Marche, ou encore des ONG Amnesty International et Human Rights Watch. Selon Il Messaggero, toutes ces entités ont tort de crier au racisme, car, c'est là la thèse du journal, il existe bien un mode de vie européen, et il n'y a rien de plus facile à définir, renchérit le quotidien italien.
Alors, Beniamino, qu'est-ce que le mode de vie européen pour Il Messaggero?
Alors c'est un mode de vie fondé sur la démocratie, la liberté, l'état-providence, la culture, le droit, mais encore la modernité, l'antiquité, la laïcité et même la sécurité, selon Il Messaggero. Un mode de vie qui est un patrimoine et que nous, les Européens, avons construit à travers les siècles, de la Rome antique en passant par le siècle des Lumières. Alors sans avoir peur de passer pour des réacs, nous devons donc être fiers de ces valeurs, selon le journal Il Messaggero, car l'objectif doit être celui d'intégrer, bien sûr, mais selon nos propres règles et nos propres valeurs. Alors l'article termine son plaidoyer en citant un grand philosophe, aussi pessimiste qu'ironique, le roumain mais très francophone, Émile Cioran, qui affirmait dans son ouvrage de la France « qui trop embrasse, falsifie le monde ». Nous Européens, selon le Messaggero, devrions donc penser d'abord à nous embrasser nous-mêmes un peu plus. Car l'histoire montre que nous le méritons.
Merci Benjamin Morand, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, je vous pose la question à toutes les deux eurodéputées. Que le titre allemand, est-ce qu'il faut défendre le mode de vie européen et est-ce que ça justifie un commissariat et donc un commissaire?
Vous avez cité Émile Cioran, roumain. Maintenant, c'est un peu difficile pour moi de parler derrière lui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les Roumains, l'Europe de l'Est, tiennent absolument à cette Europe. Ils sont francophiles, mais ils sont europhiles énormément. Et on voudrait bien avoir ce mode de vie européen, parce qu'on est loin derrière. On n'a pas encore les infrastructures de base. Donc, finalement, pour nous, la question...
Vous êtes loin derrière au niveau du niveau de consommation?
Au niveau de consommation, au niveau du confort, de ce que veut dire... au niveau, je parle des infrastructures
de
santé.
Ça, c'est pas le mode de vie, c'est plutôt le niveau de vie.
C'est lié. Alors pour nous, alors voilà, c'est là où peut-être il y a une manière différente de regarder le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à ce moment-là, ce niveau de vie. Donc, il y a un paradoxe, une dichotomie entre nos soucis, en fait. Notre souci à nous, c'est d'arriver à ce niveau de vie européen, qu'il n'y ait plus les deux vitesses. Alors là, je sais que vous allez me dire, mais c'est pas le sujet. Je sais, mais je vous dis le sujet qui nous intéresse.
Mais on a pourtant vu en Roumanie l'hiver dernier, des milliers de Roumains descendent dans la rue avec le drapeau européen pour justement défendre non pas le niveau de vie, mais le mode de vie pays européens avec
l'État de droit. Non, là, c'était les valeurs. Alors là, je vous dis sur les mots. C'était les valeurs européennes qu'on défendait pas à l'ONU. Là, c'est, on veut changer notre propre classe politique corrompue. Donc ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Pour nous, ça, c'est une valeur européenne. Et là, il n'y a pas de négociation. Si on peut négocier peut-être un peu sur le mode de vie, sur les valeurs, il y a zéro négociation. Et puis en plus, on veut absolument faire connaître à l'Europe entière que nous, la Roumanie, nous ne sommes pas cette classe politique corrompue. La jeunesse roumaine, la nouvelle industrie roumaine, c'est autre chose. Et c'est le cas pour toute l'Europe de l'Est, ce que je dis.
Karima Deli, alors faut-il défendre le mode de vie européen à travers un commissariat ?
Moi, je trouve l'intitulé de ce portefeuille, c'est une véritable erreur, parce qu'il y a un lien entre la protection du mode de vie des citoyens européens avec la question de l'immigration. Et au fait, le lien, il est direct. C'est la réponse à... pour pouvoir justement protéger le mode de vie des citoyens européens, mais protéger de quoi ? On dit bah des migrants en gros. Et donc on fait justement le boulevard à l'extrême droite. Tous les partis d'extrême droite, en premier lieu Marine Le Pen, s'est félicitée. Alors elle a défendu Madame von der Leyen à ce niveau-là. Donc moi je crois que le portefeuille de cette commission ne peut pas commencer avec une tache brune. On reprend les mêmes mots que l'extrême droite.
Mais est-ce qu'il faudrait...
Pour moi, c'est une véritable faute. Donc moi, je l'ai dit, j'ai demandé, en tant que présidente de la commission transport, à l'ensemble des présidents de commission, j'ai dit, en réunion de ce qu'on appelle la CCC, c'est la réunion des chefs de commission, et j'aurais dit, il faut envoyer un message très clair, Madame von der Leyen, pour dire nous n'acceptons pas cet intitulé. Et il y avait la majorité des présidents de commission qui disaient, mais on est totalement d'accord puisque nous sommes choqués, parce que c'est pas étrange d'utiliser cette sémantique puisque c'est une sémantique renvoyée notamment à du parti d'Urban qui a voté pour Madame von der Leyen. Donc je te tiens, tu me tiens encore une fois.
Ce qui vous choque, c'est l'association des deux mots, migration d'un côté et puis mode de vie. Si les deux intitulés étaient séparés, ça vous poserait moins de problèmes.
Non, et puis ensuite, le mode de vie des citoyens européens, quand vous regardez justement le portefeuille, ne représente pas ce qu'est le mode de vie. La culture est un mode de vie, par exemple. Est-ce qu'il défend justement le portefeuille de la culture ? Non, parce que le portefeuille de la culture, vous savez quoi ? Il a disparu, justement, des portefeuilles. C'est quand même dingue ! On défend les valeurs de citoyenneté, le mode de vie. La culture n'existe pas dans aucun portefeuille, vous voyez ? Donc tout ça, il faut arrêter les bêtises et faire en sorte que Madame von der Leyen, maintenant, prenne ses responsabilités, enlève cette sémantique sur ce portefeuille.
Alors un mot, Claudine.
Non, je voulais juste vous dire, je voulais juste vous montrer une complète autre lecture. Ce que je passe mon temps d'ailleurs à faire au Parlement européen. Comment verrait l'Europe de l'Est ? Ils disent, bah oui, si nous n'avons pas d'hôpitaux, donc voilà, le mode de vie, on n'a pas d'hôpitaux, on peut pas soigner. Eh bien, on émigre. Voilà, donc c'est une autre lecture, mais je voulais que vous la connaissiez.
Alors, mercredi, c'était le jour de l'audition de la commissaire présentée par la France, Sylvie Goulard. Alors, ça a été un moment particulièrement difficile pour elle, Jean-Sébastien Lefebvre.
Très. Les 3 heures ont dû être très longues.
Alors, ça mérite un petit développement.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dès le départ, il y a eu un petit discours introductif de Madame Goulard, qui a expliqué un petit peu sa vision de son portefeuille. Donc, elle est en charge du marché unique, de l'industrie et de la défense.
C'est un portefeuille extrêmement large.
Hein. Extrêmement large.
Numérique aussi.
Et voilà, elle a le numérique
et
aussi.
Et le spatial, et la défense.
Avec un immense enjeu, le numérique.
Tout à fait. Donc en gros, elle est au carrefour de toutes les futures politiques européennes, à la fois la transition écologique, la transition numérique, la souveraineté européenne par rapport aux États-Unis sur plein de questions, l'autonomie militaire et stratégique, etc. Et donc au-delà de cette vision qu'elle a développée, aussitôt elle a elle-même, dans son discours introductif, fait référence aux affaires judiciaires et au fait qu'elle ait travaillé pour un think tank américain.
Alors on va y revenir. Sylvie Goulard, c'est une ancienne eurodéputée, elle est de la maison quelque part. Hein.
Elle a été eurodéputée. Beaucoup de députés.
Elle a été une députée très présente, très active. Hein. Mm-hmm. Les idées des eurodéputés absents, on est autour de. C'était pas du tout son cas, elle était très présente.
C'est une vraie bosseuse et une vraie pro-européenne, elle connaît les institutions européennes. Elle connaît ses dossiers. À l'époque, elle était notamment en charge des questions beaucoup plus économiques, hein, la zone euro, etc. Et vraiment, c'est l'image que tout le monde a de Sylvie Goulard au sein des institutions.
Sur le thème de la compétence, pas de problème, tout le monde est d'accord. Elle est compétente. Sur le thème de son engagement européen, Pas de problème, elle était d'ailleurs présidente pendant plusieurs années du mouvement européen France, elle était représentante d'un parti très européen. Voilà, c'est donc sur ce problème de ce qu'elle a fait pendant qu'elle était députée, Éric Maurice. Alors deux problèmes, hein. Un problème de financement des assistants, hein, voilà. Et à travers son parti qui était à l'époque le MoDem, on va y revenir, vous allez peut-être développer. Et puis un autre problème plus grand, c'est que pendant qu'elle était eurodéputée, elle avait comme un deuxième salaire.
Oui, elle travaillait. En tout cas, elle était liée à un think tank américain sur une partie du think tank américain qui s'occupait des affaires européennes, d'une réflexion sur l'avenir de l'Europe. Et pour ça, elle touchait 12 ou 15 000 euros par mois, je ne sais plus exactement.
Pendant trois ans.
Ce qui, évidemment, pose question non seulement sur le montant de cette rémunération, mais sur les activités qui étaient liées à ce montant, et puis aussi sur la personnalité du fondateur de ce think tank, qui est un germano-américain, mais qui est aussi lié à des fonds de pension vautours, comme on appelle. Et parmi les questions qu'ont posé les députés européens, il y avait: quel est l'intérêt pour ce monsieur Berggruen, il s'appelle, d'avoir quelqu'un comme Sylvie Goulard travaillant pour lui, et quels sont les retours que pourrait attendre cette personne de Sylvie Goulard une fois qu'elle est commissaire européenne?
Vous avez une réponse à cette question que vient de poser Éric Maurice?
La question a été posée, je pense, quasiment une dizaine de fois à Sylvie Goulard en trois heures. C'est-à-dire que le sujet revenait tous les quarts d'heure, même si à un moment on parlait un peu de fond sur les dossiers qu'elle va traiter. À chaque fois, ça revenait à un moment donné par quasiment tous les groupes politiques, sauf le sien, bien entendu, au Renew. Les éléments qu'a apporté Sylvie Goulard, c'est de dire qu'elle a fait des rapports, deux en trois ans, c'est pas beaucoup, mais elle a aussi participé aux réflexions du think tank, a organisé des événements, participé à des rencontres, etc. Où elle dit, voilà, elle a alimenté, grâce à ses connaissances, les réflexions qu'il peut avoir, voilà, sur l'avenir de l'Union, les axes stratégiques à développer. Et elle a aussi évoqué le fait qu'elle a permis à des gens de se rencontrer, de les influencer, etc. Donc, il n'y a rien de répréhensible, aussi bien au niveau de la loi.
Fait dans la légalité.
Dans la légalité, effectivement, dans le règlement du Parlement européen et dans la loi, il n'est pas interdit à un député d'avoir une autre activité à côté. Certains ont déjà essayé de l'interdire, mais ça n'a jamais été accepté, parce que ceux qui doivent l'approuver, ce sont les députés eux-mêmes. Par contre, il y a la question de la éventuellement influence ou autre que cet homme, Berggruen, pourrait avoir plus tard, etc. Parce qu'effectivement, il est lié à des... Il a des intérêts, c'est un milliardaire, donc il a des intérêts économiques. Voilà, quelles pourraient être les conséquences pour Sylvie Goulard en tant que commissaire et qui gère autant de sujets, parce qu'elle aura le marché intérieur, l'industrie, la défense, le numérique, etc. Donc, les députés ne sont pas satisfaits, et c'est pour ça qu'ils lui ont dit, à la fin de l'audition, il n'y a pas de feu vert tout de suite, il va y avoir des questions en plus, et Mme Goulard a jusqu'à mardi pour y répondre.
Alors, deuxième point qui a posé problème aux eurodéputés, c'est le problème du financement des assistants parlementaires qui n'auraient pas forcément travaillé pour elle, mais pour le parti, à savoir le MoDem. Et on peut rappeler que Sylvie Goulard avait été nommée ministre des Armées par Emmanuel Macron. Elle avait démissionné un mois plus tard à cause de cette affaire. Elle avait d'ailleurs pris l'initiative, hein, elle n'est pas mise en examen, mais elle avait pris cette initiative. Et il y a une eurodéputée socialiste, Evelyne Gebhardt, si je ne me trompe pas, qui a dit, mais comment se fait-il, Madame Goulard, que vous n'avez pas pu être ministre des armées en France et que vous puissiez devenir commissaire européen ici à Bruxelles et à Strasbourg, Clotilde Armand? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Alors, je rappelle que vous êtes proche, évidemment, de Sylvie Goulard et du même mouvement que le vôtre.
Non, mais en même temps, nous sommes un parti de tout un mouvement qui lutte énormément contre tout ce qui est manquement à l'éthique. Donc, nous ne voulons pas de double standard, en fait. Hein. Donc, à très juste titre, et moi, nous avons tous fait un lobbying pour Madame Rovana Plum, qui représente cette classe politique corrompue de Roumanie, a été rejetée. Nous ne voulons pas qu'il y ait, je répète, double standard. C'est-à-dire, ce qui est valable pour l'Est est valable pour l'Ouest. Donc, il faut traiter ces sujets avec beaucoup, beaucoup de sérieux, et on veut être dans ce renouvellement du Parlement, on veut être absolument exemplaire et avoir des... vous avez parlé des députés, ceux qui ont plusieurs revenus, il y a le fond, il y a la forme, il faut qu'on règle ces problèmes. Vous savez, on reçoit également pour nos cabinets parlementaires des sommes sur la candidature précédente. Sur les 700 et quelques députés, il n'y en a que 17 qui ont rendu l'argent qui n'a pas été utilisé au Parlement. Donc il faut qu'on ait des réflexions sur ce sujet, sur nous-mêmes, et puis qu'on soit exigeant également avec l'exécutif qui va gérer.
Mais pour vous, est-ce que Sylvie Goulard peut être commissaire européen au marché intérieur très élargi?
Alors, vous allez dire que moi aussi, je suis dans un conflit d'intérêts, puisque je soutiens sa compétence, même si j'ai vu que sur comment est-ce que nous, l'Europe, on va arriver à revenir en première ligne sur la partie technologique, elle n'a non plus pas totalement convaincu. Mais donc, je suis en conflit d'intérêts parce que je représente un parti anticorruption où les subtilités ne marchent pas, c'est correct ce que l'on a fait, ou ce n'est pas correct. Et de commencer avec les explications, c'est le meilleur moyen de dire que... je suis dans l'embarras et moi personnellement préférerais qu'on ait des commissaires qui ne présentent absolument aucune prise à la lutte anticorruption, c'est-à-dire qu'ils soient absolument immaculés. Voilà, c'est ça ma préférence.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, les nouveaux visages de l'Europe ont bien du mal à se mettre en place, et on l'a compris. Nous sommes avec Karima Delli, redéputée Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission transport, avec Clotilde Lamont, que l'on vient d'entendre, redéputée roumaine du groupe Renew, avec Jean-Sébastien Lefebvre, journaliste à Contexte, avec Éric Meurice, représentant à Bruxelles de la fondation Robert Schuman. Karima Delli, dans ces conditions, Sylvie Goulard peut-elle être commissaire européen?
Ça va être toute la question, parce que la question éthique est une question très importante pour les eurodéputés. C'est véritablement un marqueur très fort. Le problème de fond, ça a été soulevé, c'est au-delà du cas particulier de Madame Sylvie Goulard, puisque ça touche tous les groupes qui semblent d'accord, la question éthique, elle est centrale, mais elle doit aussi être amenée chez chaque député européen. Donc, chacun d'entre nous doit balayer devant sa porte, hein, parce qu'on dit, si on allait voir ceux qui touchent leur indemnité de députés et leurs activités en extérieur, etc., il y aurait aussi beaucoup à faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie aussi toutes les questions de transparence, de conflit d'intérêts, et on remet ça à plat. Et donc ça, c'est maintenant qu'il faut le faire en début de mandature.
Mais comme l'a dit Jean-Sébastien Lefebvre, c'est les eurodéputés qui pourraient voter ça, ils sont pas forcément très très chauds.
Bah, en tout cas,
enfin,
le groupe...
pas tous.
Non, mais moi, je vais vous le dire, le groupe des Verts, c'est une question qui est pour nous centrale. Par exemple, nos agendas, même moi en tant que présidente de la commission de transport, est rendu public. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts, etc. Nous sommes au service des citoyens. Nous ne sommes pas là pour être au service d'intérêts privés. Donc tout ça, dans notre groupe, on est en train de pousser pour faire beaucoup plus de transparence. La deuxième chose qui va être amenée là dans le jeu, c'est comment vont réagir les uns et les autres des groupes politiques. Est-ce que ça va être... J'ai fait tomber le candidat PPE et le candidat socialiste, donc est-ce que maintenant c'est au tour de faire tomber le candidat Renew, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi... cette ambiance-là dans les auditions, maintenant la véritable question, elle est pourquoi faire cette commission? Pourquoi il faut des commissaires sérieux? Quels sont les défis? Et là, j'ai hâte d'entendre Monsieur Timmermans, parce que Monsieur Timmermans...
Vice-président
de cette commission qui sera en charge d'un des piliers des 5 ans à venir. Alors, ils appellent ça Green Deal, parce que tout le monde aime bien faire du green partout. Qu'est-ce qu'il va dire? En plus, ils ont fait, je pense, une erreur majeure, c'est qu'ils nous ont dit, dans les 100 jours, vous allez voir ce que vous... Alors, tout à l'heure, vous disiez, Monsieur Juncker, c'était la commission de la dernière chance. Là, ils ont dit, dans les 100 jours. Vous savez, c'est comme Mitterrand, dans les 100 jours, là, voilà. Sauf que 100 jours pour relever le défi climatique, ça va être un peu difficile.
C'est un petit peu compliqué.
Voilà.
C'est
et
un
ensuite,
peu juste.
On va voir, et on n'a pas encore dans les discours, et c'est ça qui manque, hein. On voit que les commissaires viennent d'arriver, et parfois ça manque de maturité, ça manque de défis, ça manque de prospective
et
d'ambition. Et on voit bien que même Madame von der Leyen, que le groupe des Verts avait reçu pendant 3 heures d'audition, etc., qui avait dit oui, j'aime bien le climat. Chez les écolos, ça passe pas, au fait, hein. Donc il faut être vraiment pertinent, et on voit bien que cette donnée-là a changé dans le discours qui a été fait, hein, par des petits, des bons, hein, des bons scribes, hein, d'ailleurs, et qui a donné une image un peu plus écolo, etc. Mais ça n'a pas permis à nous de nous démontrer. Et donc, il va falloir que chaque commissaire démontre la volonté de faire autrement pour que demain, l'Europe ne soit réellement pas la dernière chance.
Alors, Karima Delli, on l'a compris, il y a le fond, il y a les ambitions de l'Europe, les ambitions de cette nouvelle commission. Donc, c'est vrai que Jean-Claude Juncker l'a dit, moi, il y a 5 ans, je suis à la tête de la commission de la dernière chance. Est-ce qu'on on peut dire que cette commission est celle de l'ultime espoir?
Elle doit être la commission du prochain espoir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que le réveil, le sursaut avec le défi climatique... Au fait, l'Europe a un boulevard pour dire « Maintenant, on rentre dans la cour des grands face à la Chine, face aux États-Unis. Ça y est, on peut prendre le lead sur le réchauffement climatique. Ça y est, on peut être véritablement une courroie de transition sur les questions d'innovation, etc. » Mais moi, ce que je remarque, c'est est-ce qu'on aura le courage politique? Est-ce qu'on aura des chefs d'État qui se... on aura une team européenne, on va serrer les coudes? Ou est-ce qu'on sait encore les égoïsmes nationaux qui vont jouer? Est-ce que dans cette commission européenne, est-ce que ces commissaires vont être à la botte de leur gouvernement? Ou est-ce qu'ils vont être dans une équipe européenne avec des ambitions très réelles? Et ça, je doute. Ça, je doute.
Alors, il y a la grande politique que vous venez d'évoquer, Karima Delli, l'avenir de l'Europe et ce qu'elle peut faire. Et vous avez très bien expliqué que seule l'Europe peut le faire. Il ne faut pas compter sur les Chinois, les Russes et les Américains pour faire ce que l'Europe est susceptible de faire. Et espérons qu'elle le fasse, mais c'est pas sûr. Et puis, il y a cette vie, Jean-Sébastien Lefebvre, du Parlement, je dirais, un peu plus politique. Alors, si je résume au niveau des commissaires, un commissaire conservateur, PPE, a été éliminé. C'est le Hongrois. Une commissaire socialiste roumaine a été éliminée. Une commissaire de Renew est en difficulté. Est-ce que le jeu de massacre peut continuer ou pas?
Toute la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment jusqu'au bout d'une guerre? Mais là, dans ce cas-là, les groupes vont s'auto-annihiler, puisque pour approuver la commission, il faut qu'il y ait 3-4 groupes qui la votent. Donc s'ils se font la guerre, ils vont s'auto-éliminer leur commissaire, mais personne ne passera à la fin. Donc est-ce que les deux qui ont été éliminés dès le début pour des questions de conflit d'intérêts vont être les deux seules victimes, et maintenant il y a une sorte de peu à peu va se figer, la situation va se figer, et en gros chacun va se tenir par la barbichette et à la fin tout le monde passera, alors avec peut-être des petits ajustements. C'est-à-dire qu'on peut dire, ce commissaire-là, il est quand même pas très très bon, on va lui enlever un petit peu de compétences et les donner à quelqu'un d'autre. Ou alors, Sylvie Goulard, ouais, quand même, elle a un peu fauté, on va lui enlever quelques compétences et les donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des ajustements de cet ordre-là. Mais si les groupes s'entretuent, à la fin, personne ne gagnera, il n'y aura pas non plus de commission européenne. Et après, il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que faire tomber un commissaire... Et alors là, ça va pas beaucoup vous plaire, parce que c'est quand même une différence
est-ouest. Vous adressez à Clotilde Armand. Hein.
Tout à fait. C'est qu'il y a une différence entre faire tomber le commissaire ou la commissaire roumaine et la commissaire française. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher politiquement. Et c'est quasiment impossible. Parce que derrière, il y a la France, Emmanuel Macron. Et en 2014, par exemple, il y a eu des problèmes avec le commissaire espagnol, qui était issu des rangs du PPE. La droite a pour des conflits d'intérêts aussi, parce qu'il a été nommé commissaire à l'énergie et il avait des actions, beaucoup d'actions dans des compagnies qui faisaient du pétrole, de l'extraction au large de l'Espagne.
Mauvais genre.
Et sauf qu'il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé, c'est une commissaire slovène qui a été dégommée à la place. Donc on peut ajuster.
Mais après, oui.
Mais on peut faire tomber la commissaire française, c'est beaucoup plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible.
Non, mais après, il peut y avoir un jeu aussi de chaises musicales selon les pays.
Un Roumain plus un Hongrois, ça fait un Français?
Non, même pas. Très cynique, non.
D'un mot, est-ce que Emmanuel Macron a fait une erreur en proposant Sylvie Goulard, ou est-ce qu'au contraire, c'est un coup de poker pour dire, à travers Sylvie Goulard, je m'impose comme leader européen?
C'est un coup de poker dans le... Ça dépend en quelle perspective on prend ce choix. Si on prend le choix de j'ai envie de nommer quelqu'un qui connaît la machine européenne, qui va comprendre comment ça fonctionne, qui saura quelle actionner tel ou tel levier, etc. Sylvie Goulard est un bon choix, parce que comme ça a été dit, elle est compétente sur ces questions-là. Sur le plan politique, se dire je vais nommer Sylvie Goulard, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, elle a démissionné de son poste de ministre de la Défense pour une affaire qui est toujours pas terminée. Alors après, on pourrait dire la justice est un peu longue. Ça fait 2 ans, il y aurait pu se passer un peu plus de choses en 2 ans. Et aussi parce que, pendant 3 ans, elle a touché 10 000 euros par un think tank et on ne sait pas trop ce qu'elle a fait pendant ces 3 ans. Donc, on va dire, d'un point de vue purement théorique, c'est un bon choix parce que c'est une bonne connaisseuse de l'Union européenne. D'un point de vue politique, c'est un choix beaucoup plus risqué.
Alors, parmi les opposants à la nomination de Sylvie Goulard, il y a évidemment les Allemands du PPE, c'est-à-dire les Allemands de la CDU. Les Allemands avaient l'habitude depuis des années de dominer ce Parlement parce qu'ils étaient les plus nombreux et qu'ils étaient les plus nombreux dans le groupe le plus important. Le PPE, à travers la CDU, les représentants allemands, ont dit non à Sylvie Goulard, mais à la fin de l'histoire, est-ce que ça va pas se régler par un coup de fil entre Emmanuel Macron et Angela Merkel pour dire on arrête la récréation?
Ce que prouve toute cette séquence des auditions, et en particulier le cas de Sylvie Goulard, c'est 3 choses. La première, c'est que pour être nommé commissaire, il faut être même s'il y a des exceptions, il faut être quand même compétent. Sylvie Goulard l'est, et ça explique le choix d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens députés européens dans les candidats à commissaire. Il y a deux anciens ambassadeurs d'États membres auprès de l'UE. Donc une dimension européenne de plus en plus importante dans le profil des commissaires. Il y a aussi que les questions éthiques sont de plus en plus importantes. Et donc là, on est dans une tendance lourde de la politique en Europe de transparence et d'honnêteté personnelle. Il faut répondre à des équilibres politiques de plus en plus compliqués. Et donc, effectivement, le PPE va discuter au plus haut niveau avec Emmanuel Macron. Et puis, ça démontre deux autres choses, que le Parlement est de plus en plus puissant, même si le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil européen, a pu imposer une présidente de Commission européenne. Et la dernière chose, c'est que ça dément, je pense, clairement, ce mythe des commissaires qui sont des eurocrates responsables devant personne. On voit qu'ils sont responsables politiquement et qu'ils doivent avoir une vision politique et qu'ils vont devoir l'assumer pendant 5 ans.
Karima Deli, vous allez avoir le mot de la fin, parce que, mine de rien, vous êtes la plus ancienne dans ce Parlement. Donc, vous avez l'expérience pour vous, et toujours la jeunesse. Ça voilà, va se terminer comment, cette histoire?
Très simplement, c'est le Parlement qui aura le dernier mot, et je pense qu'on est dans une séquence où le Parlement veut reprendre ses droits par rapport à la Commission, ou même par rapport au Conseil. Alors, Emmanuel Macron, il aura beau appeler Madame Merkel, et ben, ce sont les partis politiques qui vont décider. Et là, il faut avoir une très large majorité pour que cette Commission d'ensemble passe. Et ça, c'est pas gagné.
Les partis politiques, c'est-à-dire représentés par les eurodéputés au Parlement
européen, voilà.
De Bruxelles et de Strasbourg.
Réponse le 23 octobre.
Réponse le 23 octobre. Merci Jean-Sébastien. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation à Paris, Guillaume Munier. Technique à Bruxelles, Henri Varichet. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, bien le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio pour écouter ça en balado-diffusion. En français, on dit podcast. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Bruxelles, Paris, Bucarest, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.